Nina Bergonzi. De l'Angleterre, Casanova passe en Belgique, puis en Allemagne, en Russie, à Varsovie, à Dresde, à Prague, à Vienne. En octobre 1767, il touche barre à Paris, puis en route pour l'Espagne, où il passe toute l'année 1768. À Valence, les beaux yeux d'une Italienne le retiennent. Cette nouvelle aventure va lui coûter de connaître les prisons espagnoles. Lorsque je me préparais à partir pour Barcelone, je vis au Cirque des Taureaux une femme dont l'air avait je ne sais quoi d'extrêmement imposant. Le chevalier d'Alcantara, se trouvant à mon côté, je lui demandai qui était cette dame. « Oh, mais c'est la fameuse Nina !»« Pourquoi fameuse ?»« Oh, si vous ne la connaissez pas de réputation, son histoire est trop longue pour être racontée ici. » Fixant assez involontairement cette femme, je vis 2 minutes après un homme d'assez mauvaise mine, mais assez bien vêtu, se détacher de l'imposante beauté, s'approcher du chevalier et lui parler à l'oreille. Se tournant vers moi de l'air le plus poli, le chevalier dit que la dame, dont je lui avais demandé le nom, désirait connaître le mien. Sottement flatté de cette curiosité, je répondis au messager que si la dame le permettait, j'irais en personne lui apprendre après le spectacle. « Il me semble, à votre accent, que vous êtes italien. »« Oui, je suis vénitien. »« Et elle aussi. » Quand le messager fut parti, le chevalier, devenu moins laconique, me dit que Nina était une danseuse que le comte de Ricla, capitaine général de la principauté de Barcelone, entretenait à Valence depuis quelques semaines, en attendant qu'il pût la faire retourner à Barcelone, où l'évêque ne voulait plus la souffrir, à cause du scandale. Le comte, ajouta-t-il, en est amoureux fou et lui assigne 50 doublons par jour. « Mais elle ne les dépense pas, j'espère. »« Elle ne le peut pas, mais elle fait chaque jour des folies qui lui coûtent beaucoup d'argent. » Fort curieux de connaître une femme de ce caractère, et loin de craindre que cette connaissance pût m'attirer quelque désagrément, il me tardait que le spectacle fût fini pour lui parler. L'ayant abordée, elle me reçut avec une grande aisance, et prête à monter dans un bel équipage à 6 mules, elle me dit que, si je lui faisais le plaisir de venir déjeuner avec elle le jour suivant, à 9 heures, elle en serait ravie. Je le lui promis et je n'y manquais pas. Je la trouvai dans une très grande maison à 100 pas de la ville. Elle était richement meublée avec assez de goût et un vaste jardin l'entourait. La première chose qui me frappa, ce fut une foule de domestiques en brillante livrée et plusieurs femmes de service, également mise, qui allait et venait dans tous les sens. En avançant, j'entendis une voix impérieuse qui grondait dans l'appartement même où l'on m'introduisait. La grondeuse était la Nina, qui chantait, bouillait un homme tout étonné, qui se tenait debout devant beaucoup de marchandises étalées sur une grande table. « Vous excuserez ma colère, me dit-elle, contre ce sot d'Espagnol qui veut me soutenir que ces dentelles-là sont belles. » Comme elle voulait que je lui dise mon opinion, et les trouvant réellement belles, mais ne voulant pas la contrarier pour ma première visite, je lui dis que je ne m'y connaissais pas. « Madame, lui dit le marchand impatienté, si vous ne voulez pas de dentelles, laissez-les, mais voulez-vous les étoffes ?» « Oui, je les garde, et pour vos dentelles, je veux vous convaincre que ce n'est point pour ménager l'argent que je les méprise. » En disant ces mots, la folle prit des ciseaux et les mit en pièces. « C'est grand dommage, lui dit l'homme qui était venu me parler la veille. On dira que vous êtes folle. « Tais-toi, vilain marque, lui dit-elle en lui appliquant un vigoureux soufflet. L'animal s'en alla en la traitant de catin, ce qui ne lui inspira qu'un éclat de rire. Puis se tournant vers l'Espagnol, elle lui dit de faire son compte à l'instant. Le marchand ne se le fit pas dire 2 fois et se vengea sur les prix des injures qu'elle lui avait prodiguées. Prenant le compte sans le lire, elle le signa et dit « Allez trouver Don Diego Valencia, qui vous paiera à l'instant. » Resté seul avec elle, le chocolat vient et elle fait ordonner à l'homme au soufflet de venir le prendre avec nous dans l'instant. « Ne vous étonnez pas, me dit-elle, de ma façon d'agir avec ce sujet. C'est un gueux sans conséquence que Ricla a mis près de moi pour m'espionner, et je le traite, comme vous avez vu, pour qu'il écrive tout. Je croyais rêver, tant ce que je voyais et entendais me paraissait extraordinaire, car je n'avais jamais pensé qu'il pût exister une femme de ce caractère. Le malheureux souffleté, bolognais et musicien, vint et prit son chocolat sans mot dire. Il s'appelait Molinari. Étant sorti dès qu'il eut achevé, Nina passa une bonne heure avec moi, me parlant de l'Espagne, de l'Italie, du Portugal, où elle avait épousé un danseur qui se nommait Bergonzi. « Je suis fille, me dit-elle, du fameux charlatan Pelandi que vous pouvez avoir connu à Venise. » Après cette confidence, dont elle ne faisait pas un secret, elle me pria d'aller souper avec elle, le souper étant son repas favori. Je lui promis et j'allais me promener pour réfléchir à l'aise sur le caractère de cette femme et sur sa grande fortune qu'elle vilipendait. Nina était une beauté surprenante, mais comme je n'ai jamais cru que la beauté puisse suffire pour rendre un homme heureux, je ne comprenais pas comment un vice-roi de Catalogne pouvait en être amoureux à ce point. Pour Molinari, après ce que j'avais vu, je ne pouvais que le considérer que comme un infâme. J'allais y souper pour jouir du spectacle, car toute belle qu'elle était, elle ne m'avait rien inspiré. C'était au commencement d'octobre, mais à Valence, on avait 20 degrés de Réaumur à l'ombre. Nina se promenait au jardin avec son jocrisse, tous deux fort légèrement vêtus, car Nina n'avait que la chemise et une fine jupe. Dès qu'elle me vit, elle vint à moi et m'invita à me mettre comme eux. Mais je m'en dispensais pour des raisons dont elle dut se contenter. La présence de cet infâme coquin me choquait au suprême degré. Jusqu'à l'heure du souper, Nina m'entretint de mille anecdotes lascives dont elle avait été l'héroïne depuis qu'elle avait commencé sa vie de libertine jusqu'à l'âge de 22 ans qu'elle avait alors. Sans la présence de l'Argus révoltant, sans doute, quoique sans amour, toutes ces histoires auraient fait sur moi leur effet naturel, mais il n'en fut rien. À table, le souper étant friand, nous eûmes tous grand appétit, et quand nous eûmes fini, je m'en serais volontiers retourné chez moi. Mais ce n'était pas ce qu'elle voulait. Le vin l'avait échauffé, le bouffon était gris, elle voulait rire. Ayant envoyé tout le monde, la messaline exigea que Molinari se mît tout nu, et alors elle commença sur lui des expériences que je ne saurais écrire sans dégoût. Le drôle était jeune et vigoureux, et quoique ivre, le manège de Nina ne tarda pas à le mettre dans l'état le plus respectable. Il était évident que son intention était que je la servisse dans cette circonstance, en présence de ce ribaud. Mais son aspect montait jusqu'à la faculté du désir. Nina, qui sans me regarder s'était mise en état de nature, me voyant froid à toute cette orgie, se servir de cet être pour éteindre son ardeur. Je souffrais de voir une si belle femme accouplé un animal qui n'avait d'autre mérite que celui d'une monstrueuse difformité qui pour elle sans doute était une perfection. Quand elle l'eut épuisée par toutes les ressources qu'une bacchante seule pouvait mettre en œuvre, elle se jeta un instant dans une baignoire qui figurait une commode que je n'avais pas aperçue. Puis elle revint, prit une bouteille de malvoisie, et força sa brute à boire jusqu'à ce qu'il tombât. Je m'enfuis alors dans une chambre voisine, n'en pouvant plus de dégoût, et elle m'y suivit. Là, toujours nue, mais rafraîchie par le bain, assise près de moi sur une ottomane, elle me demanda comment j'avais trouvé cette fête, mon honneur et mon amour-propre exigeant une satisfaction. Je lui dis que l'horreur que m'inspirait ce misérable était si grande qu'elle détruisait tous les faits que ses charmes pouvaient faire sur moi, comme sur tout homme qui avait des yeux. Mais oui, je crois cela possible, mais actuellement, il n'y est pas, et pourtant vous ne dites rien. On ne le croirait pas en vous voyant. On aurait raison, Nina, car je ne vaux pas moins qu'un autre, mais il m'a révolté. Laissez-moi. Demain, si je ne vois pas ce monstre indigne de jouir de vous. Il ne jouit pas, je le tue. Si je pouvais croire qu'il jouit, je mourrais plutôt que de rien faire avec lui, car je l'aborde. Comment, vous ne l'aimez pas et vous vous en servez pour cela? Oui, comme je me servirais d'un instrument artificiel. Je ne voyais dans cette femme que la nature portée à sa plus haute dépravation. Elle m'engagea à souper pour le lendemain, voulant voir si ce que je lui avais dit était vrai, en me disant que nous serions tête à tête parce que Molinari serait malade. Oh, il aura digéré son vin et se portera fort bien.
Non, je vous dis qu'il sera malade. Venez, venez tous les soirs.
Je pars après-demain.
Non, vous ne partirez pas avant 8 jours et nous partirons ensemble.
Cela n'est pas possible.
Mais vous ne partirez pas, vous dis-je, car vous me feriez un affront que je ne souffrirai pas.
Je rentrai chez moi, résolu de partir sans me soucier d'elle. Et quoique, à mon âge, je ne fusse plus novice sur rien, j'allais me coucher, étonné du débordement de cette mégère, de sa liberté de parler et d'agir, et surtout de sa franchise, car elle m'avait confessé ce que je savais, mais ce que femme n'avoue jamais à personne.
Je me sers de lui pour me satisfaire, parce que je suis sûr qu'il ne m'aime pas. Et si je savais qu'il m'aimait, je mourrais, plutôt que de lui rien permettre, car je le déteste.
Le lendemain, à 7 heures du soir, je me rendis chez elle. Elle me reçut avec un air de tristesse affectée, en me disant
« Hélas, nous serons seuls à souper, car Molinari a la colique. »
Et vous m'avez dit qu'il serait malade. L'avez-vous empoisonné?
J'en serais capable, mais Dieu m'en garde.
Mais vous lui avez donné quelque chose.
Rien que ce qu'il aime. Mais nous parlerons de cela. Jouons. Après, nous souperons et nous rirons jusqu'à demain. Demain au soir, nous recommencerons.
Ah non, car... je partirai à 7 heures.
Oh, mais vous ne partirez pas, et votre cocher ne vous cherchera pas querelle, car il est payé. Voilà la quittance.
Et tout cela était d'un ton gai, portant le cachet d'un des despotismes amoureux qui ne pouvait me déplaire. N'étant pas pressé, je pris la chose du bon côté, l'appelant folle et lui disant que je ne valais pas le cadeau qu'elle venait de me faire. « Il est étonnant, lui dis-je, que tel que vous êtes et tenant une si bonne maison, vous ne vous souciez pas de recevoir compagnie. »«
Tout le monde tremble. Ils craignent Ricla, amoureux et jaloux, auquel l'animal à la colique écrit tout ce que je fais. » Il jure que ce n'est pas vrai, je sais qu'il ment. Je suis même charmé qu'il le fasse, et très fâché que jusqu'ici il n'ait rien pu lui apprendre d'important. Ben, il lui écrira que j'ai soupé avec vous, tête à tête.
Tant mieux. Avez-vous peur?
Non, mais il me semble que vous devriez me dire si je dois craindre.
Rien, car il ne peut s'en prendre qu'à moi.
Mais je ne voudrais pas être cause d'une brouillerie qui vous serait préjudiciable.
Au contraire, plus je l'irriterai, plus il m'aimera et le raccommodement lui coûtera cher.
Vous ne l'aimez donc pas?
Si, pour le ruiner.
Mais il est si riche que je n'en viendrai pas à bout.
Je voyais devant moi une femme belle comme Vénus, corrompue comme l'ange des ténèbres, prostituée affreuse et née pour punir quiconque aurait le malheur d'en devenir amoureux. J'en avais connu d'autres de ce genre, mais jamais son égale. Je pensais à tirer parti de cette scélérate en la mettant à contribution. Elle fit apporter des cartes et elle m'invita à jouer à ce qu'on appelle primiera. C'est un jeu de hasard, mais compliqué de manière que le plus prudent gagne toujours. En moins d'un quart d'heure, je reconnus que je jouais mieux qu'elle. Cependant, elle joua avec tant de bonheur que, lorsque nous nous levâmes pour aller souper, je me trouvai en perte de 20 pistoles que je lui payai de suite. Elle les prit en me promettant revanche. Nous soupâmes bien, et puis nous fîmes toutes les folies qu'elle voulut et que je pus, car je n'étais plus dans l'âge des prodiges. Le lendemain, je me rendis chez elle de meilleure heure. Nous nous mîmes à jouer, elle perdit, ainsi que tous les jours suivants. De sorte que je lui gagnais 200 ou 300 doublons, ce qui, dans mon état de fortune d'alors, n'était pas chose indifférente. L'espion était guéri, et le lendemain, il soupa avec nous et tous les jours. Mais sa présence ne me gênait plus depuis qu'elle avait cessé de se prostituer à lui devant moi. Elle avait pris le parti contraire. Elle se donnait à moi en lui demandant de s'en aller, d'écrire au comte Ricla tout ce qu'il voudrait. Ce comte lui écrivit une lettre qu'elle me donna à lire et dans laquelle ce pauvre amoureux lui disait qu'elle pouvait retourner à Barcelone sans rien craindre, car l'évêque avait reçu ordre de la cour de ne la considérer que comme une personne de théâtre, qui n'était dans son diocèse qu'en passant et qu'ainsi elle pourrait y passer tout l'hiver. Qu'elle pouvait être sûre qu'on la laisserait tranquille à Barcelone, pourvu qu'elle y vécût sans causer du scandale. Elle me dit que, pendant mon séjour à Barcelone, je ne pourrais l'aller voir que de nuit, lorsque le comte l'aurait quitté, ce qu'il faisait toujours à 10 heures. Elle m'assura en outre que je ne courrais aucun risque. Je ne me serais peut-être pas arrêté à Barcelone si Nina ne m'avait dit qu'au cas où je me trouverais avoir besoin d'argent, elle me prêterait la somme qui me serait nécessaire. Elle voulut que je partisse de Valence un jour avant elle, et que je m'arrêtasse à Tarragone pour l'attendre, ce que je fis selon ses désirs, et je passai dans cette ville, pleine de monuments antiques, une journée des plus agréables. Je fis préparer un souper délicat pour recevoir Nina comme elle le voulait, et j'eus soin que sa chambre à coucher fût attenante à la mienne, afin de ne causer aucun scandale. Elle partit le matin et me pria de ne partir que le soir, de voyager de nuit et de n'arriver qu'au jour à Barcelone, m'indiquant l'auberge de Santa Maria pour mon pied-à-terre. Elle me recommanda de n'aller la voir qu'après qu'elle m'aurait donné de ses nouvelles. À Barcelone, Casanova commet une grande imprudence. Il blesse un émissaire du comte Ricla et est enfermé au fond de la tour pendant 42 jours, qu'il emploie à écrire toute la réfutation du gouvernement de Venise par Amelot de la Houssaye. Puis il reçoit l'ordre de quitter Barcelone dans 3 jours et la Catalogne dans 8.